Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Napoléon ou Bonaparte ? Les deux. Pour devenir Napoléon, il fallait sans doute aussi que Bonaparte fût journaliste. Plus que ça, rédacteur en chef, grand directeur, qu'il écrive ou dicte à son secrétaire en marchant de long en large dans la pièce, Bonaparte, puis Napoléon, connaissait la valeur des mots, leur force, la nécessité qu'il avait de dominer, tyranniquement bien sûr, la presse. Un exemple d'article, dicté un beau jour, « Il me faut un code européen, une cour de cassation européenne, une même monnaie, les mêmes poids et mesures. Il faut que je fasse de tous les peuples de l'Europe le même peuple et de Paris, la capitale du monde. » Fin de citation et début de la conférence donnée par Louis-Gabriel Robinet, Napoléon journaliste, et diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 10 octobre 1960.
Mesdames, messieurs, c'est le 26 août 1796, 4 mois après la victoire de Lodi, que Bonaparte, général en chef de l'armée d'Italie, s'intéresse pour la première fois à la presse. Dans un court billet daté de Milan et qu'il adresse au directoire, il écrit « Il serait bon que les journalistes voulussent bien ne pas publier sur le compte du roi de Sardaigne des absurdités comme celles que l'on publie tous les jours. Il est des coups de plume écrits sur des oui-dire et sans mauvaise intention qui nous font plus de mal, plus d'ennemis qu'une contribution dont nous tirerions avantage. Peut-être serait-il utile qu'un journal officiel inséra un article qui démentit ces bruits absurdes et ridicules. Signé Bonaparte. » Un journal officiel. Dès cet instant, l'idée allait faire son chemin. Un journal unique, rêve de beaucoup de dictateurs, de beaucoup d'hommes forts qui n'admettent ni la discussion ni la contradiction. De ce message, écrit sur le ton du maître, va naître, après le coup d'État du 18 Brumaire, le Moniteur, dont le premier consul puis l'empereur sera à la fois et pendant de longues années le directeur, rédacteur en chef. Bonaparte, à qui rien n'échappait de ce qui se passait à Paris, ronge son frein dans ce quartier général de Montbello, et il constate les effets de cette licence, de cette impunité, un gouvernement totalement impuissant devant la meute. C'est une leçon qu'il va retenir. Il n'est pas épargné d'ailleurs lui-même par les journaux royalistes qui le harcèlent de calomnies, de brocards, d'insultes de toutes sortes. On rabaisse ses succès, on vilipende son caractère, on attaque son administration, on jette des soupçons sur ses convictions républicaines, mais surtout on l'accuse, a-t-on tellement tort, de préparer un coup d'État. Un tel lecteur de journaux, attentif à tout ce qui s'écrivait dans la presse et infiniment sensible aux attaques souvent stupides dont il était l'objet, se devait d'avoir un journal à lui pour répondre. En effet, comment répliquer de manière à se faire entendre à Paris aussi bien qu'en Italie ? Bonaparte imagina un procédé aussi ingénieux qu'efficace. Ce qu'il avait à répondre aux royalistes, il l'écrirait directement au directoire, s'assurant ainsi une sorte de publicité officielle, et pour que ses soldats en eussent aussi connaissance, il le ferait imprimer sur des feuillets qui seraient distribués par milliers dans les régiments. C'était déjà du journalisme, en attendant le véritable journal qui ne tarderait pas à paraître. Au printemps 1797, en effet, c'est un journal à lui seul, qui voit le jour, l'organe du général en chef et en même temps celui de l'armée d'Italie. Le courrier de l'armée d'Italie, où le patriote français à Milan part une société de républicains. À partir du 18 Brumaire, il n'exista plus en France qu'un seul journal politique, le Moniteur, et il y eut aussi, en fait, qu'un seul journaliste politique, libre d'exprimer sa pensée, toute sa pensée, le premier consul lui-même. Helvétius a dit « Il est vrai que l'opinion est la reine du monde, mais le puissant qui gouverne est maître de l'opinion. » Du Moniteur, Bonaparte veut faire le guide de l'opinion, non seulement en France, mais surtout à l'étranger. Il est directeur, il est rédacteur en chef, il contrôle les informations, il veille à la mise en page, il critique les articles, il scrute les dépenses, il s'intéresse au tirage et à la circulation. Bref, il remplit toutes les obligations professionnelles du journaliste à qui serait confiée la fortune d'un journal. Napoléon, écrit Périvier, n'est guère connu sous cet aspect. La plupart de ses historiens, éblouis par les feux plus éclatants de sa gloire militaire ou politique, n'ont fait qu'entrevoir le journaliste. C'est dans le Moniteur du Consulat, véritable journal de combat, que Napoléon montra des qualités de polémiste, telles qu'on en rencontre peu dans la presse, souligne de son côté Frédéric Masson. Quand il écrit, dira de lui Sainte-Beuve, Napoléon est la simplicité même. C'est plaisir de voir celui qui a été le sujet de tant de phrases en faire si peu. Le directeur consul du Moniteur avait l'orgueil de son style. Un jour, qu'à Sainte-Hélène, il s'était pris de querelle avec Montholon, qu'il accusait de transformer ses souvenirs en galimatias, ce dernier s'écria « Messire, où pouvons-nous trouver votre style ?» Et Napoléon répliqua avec vivacité « Mais voyez mes articles dans le Moniteur. » Il avait son amour-propre professionnel et ne supportait pas qu'on vînt dire qu'il écrivait mal. Empêché qu'on ne mette dans les journaux de Paris ce que M. Lebrun fait imprimer à Gênes, entre autres des lettres supposées de moi dans lesquelles on me fait parler comme un savetier. Mais son style, quand il ne s'observe pas, quand il est livré à lui-même, est souvent trivial. En homme pressé, tiré de tous côtés par mille affaires, il dicte souvent ce qui lui passe par la tête. Il exprime sa pensée comme elle vient. Le premier mot qui arrive est presque toujours le bon, fût-il vulgaire, fût-il même grossier. Cet archifou de roi de Suède vient de profiter de l'occasion de dénoncer l'armistice. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas mettre un gaillard comme cela aux petites maisons. Mais c'est là l'exception. Ce qui frappe dans le style de Napoléon, c'est d'abord une sorte de tempo particulier, vif, rapide, saccadé. La phrase s'émiette, elle déflagre en petites propositions percutantes. Chacune exprime un jugement ou un fait. Il n'y a pas là seulement un ton de commandement, une impériale brièveté imitée des modèles antiques dont se réclamait Bonaparte. C'est un style personnel. Chez lui, la compréhension est foudroyante. La réplique de l'acte et de la parole prompte et précise, l'esprit toujours au galop. De là, cette sorte de heurt entre les mots qui se bousculent. De là, le torrent des actes qui accumule en une demi-vie le contenu de plus de 100 vies. Deux historiens nous ont rapporté de précieux renseignements sur la manière dont Napoléon collaborait au Moniteur. Ce sont Guillois, qui appartint à l'équipe de ce journal, et le baron Agathon Jean-François Fin, qui fut un des secrétaires dévoués de l'empereur. Le secrétaire d'État Marais était chargé, nous l'avons vu, des rapports entre le premier consul et le Moniteur. Il transmettait la copie de son illustre maître à la rédaction et à l'imprimerie. C'est lui également qui soumettait à Bonaparte les textes rédigés par les collaborateurs du journal et que voulait relire et corriger celui-ci. Chaque soir, Agas, qui était le gendre de Pankouk, et Sauveau envoyaient à Marais le sommaire du prochain numéro qui était aussitôt retourné rue des Poitevins avec les mentions « bon », « inadmissible », « à supprimer ». La plupart du temps, ces appréciations émanaient du premier consul lui-même. Les textes rédigés de la main de Napoléon sont assez rares. Guillois, qui a pu consulter toutes les archives du Moniteur avant l'incendie qui devait les détruire en 1858, l'a constaté en soulignant toutefois que la copie dictée à Bourrienne ou à Marais est presque toujours surchargée et annotée par le premier consul. Tout cela n'allait pas sans une certaine solennité. La prose consulaire était transcrite par le chef du cabinet civil ou par le secrétaire d'État sur papier officiel portant en tête l'image de la République gravée par Nigeon. Le baron Fin raconte que le travail journalistique du premier consul s'effectuait le soir dans le cabinet de celui-ci. Et c'est par là, en général, que finissait la conférence qui avait lieu tous les jours entre Bonaparte et Marais. Les plaisirs de la table étaient de très courte durée, 12 minutes à peine pour le dîner qu'on servait à 6 heures. Par suite de son invariable sobriété, les mets les plus simples, tels que les œufs sur le plat, les œufs miroirs, chers à Napoléon, haricots en salade, presque jamais de ragoût, un peu de fromage de parmesan, le tout arrosé de chambertin étendu d'eau, étaient ceux qu'il aimait le mieux. Aussitôt avalée cette rapide collation, on passait à la nouvelle du jour qui occupait le tapis. Napoléon se faisait apporter les principales dépêches, celles dont il était personnellement et particulièrement préoccupé. La part qu'il fallait en faire au public, il l'indiquait lui-même à gros traits, dans les marges. Le plus souvent, il dictait des notes pour servir aux articles qu'allait rédiger Marais ou Bourrienne. Il en dictait aussi pour les petits journaux auxquels il s'intéressait également et où il exigeait que fussent insérées ses remarques ou ses mises au point sous forme d'articles rédigés par des journalistes, disons, complaisants et compréhensifs. Il dictait, nous raconte un autre de ses secrétaires, Menval, se mettant à marcher dans la pièce où il se trouvait, en la parcourant dans toute sa longueur. Cette méthode, disait-il, me permettait de faire de l'exercice tout en travaillant. Mais l'exercice, nous allons le voir, était surtout pour ceux qui travaillaient avec lui. À mesure qu'il entrait dans un sujet, il éprouvait une espèce de tic qui consistait dans un mouvement du bras droit qu'il tordait en tirant avec la main le parement de son habit. Il écrivait rarement lui-même. Écrire, en effet, était pour lui une fatigue, sa main ne pouvant suivre la rapidité de ses conceptions. Il ne prenait la plume que si, par hasard, il était seul. La moitié des lettres, alors, manquait aux mots. Il ne pouvait se relire ou bien il ne voulait pas s'en donner la peine. À la fin d'une de ses lettres, datée de Valence en juillet 1791 et adressée au citoyen Gaudin, commissaire des guerres, Napoléon ajoute ce curieux post-scriptum. « Le sang méridional coule dans mes veines avec la rapidité du Rhône. Pardonnez donc si vous éprouvez de la peine à lire mon griffonnage. » Si une explication lui était demandée, il reprenait son brouillon qu'il déchirait ou jetait au feu et se remettait à dicter. Il arpentait son bureau, allant de l'un de ses secrétaires à l'autre, et la besogne était très rude. Il fallait saisir au vol ses improvisations, car il était très peu disposé à répéter ce qu'il avait dit. De temps à autre, ce milieu fiévreux où toutes les plumes s'évertuaient à courir après les paroles du maître est traversé par des éclaircies de gaieté. Un jour, Bélim, le rival heureux de Chateaubriand à l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, Bélim, qui était le secrétaire de Clark, ministre de la guerre, et que ce ministre envoyait quelquefois aux Tuileries pour chercher les ordres de l'empereur, écoutait Napoléon, qui était en train de dicter. Et il avait sa tabatière devant lui. À un moment, le souverain tourne le dos, Bélim vole une pincée de tabac, mais Napoléon l'aperçoit dans la glace, se retourne brusquement et, prenant la tabatière, dit au secrétaire, interloqué et tremblant, « Gardez-la, elle est trop petite pour deux. » Et il se remit à dicter au milieu des rires. Le moniteur n'eut pas d'autre intérêt que celui d'être l'organe direct de Napoléon. C'était d'ailleurs bien assez pour être lu dans toute l'Europe. Mais cela ne suffisait pas à contenter le premier consul qui regardait d'un mauvais œil la concurrence, si l'on ose s'exprimer ainsi. Et le principal souci de Bonaparte était de voir répandu à profusion le moniteur que le public n'achetait au fond que par nécessité. Pour atteindre ce but, artificiellement, on força le tirage et on finit par distribuer gratuitement le journal un peu partout. Après des vicissitudes qui n'entrent pas dans notre propos, Fievé avait collaboré sous le directoire avec Laharpe, Fontane et autres au Mercure en même temps qu'il prenait la direction politique de la Gazette. Compris le 18 Fructidor dans la liste des journalistes proscrits, Fievé dut chercher asile chez des amis en Champagne, où il écrivit un petit roman, La dot de Suzette, qui a connu un immense succès. Le 18 Brumaire le ramène à Paris. Le premier consul, qui cherchait un conseiller intime, capable de le renseigner sans farder la vérité, porta son choix sur ce monarchiste sceptique, fatigué d'attendre le retour du roi et renommé pour ses dons exceptionnels d'observation. Bonaparte avait remarqué ces articles du Mercure. Il écrivit à Raedrer le 12 mars 1802 « Je prie le citoyen Raedrer de me faire connaître les mœurs et les idées politiques du citoyen Fiévé et ce qu'on pourrait faire pour utiliser ses talents, il m'a paru en avoir beaucoup. » Il l'envoya d'abord en Angleterre pour lui établir un rapport exact de la situation dans le Royaume-Uni, puis, satisfait de ce travail, il lui proposa de rédiger pour lui seul une sorte de bulletin périodique, un journal dont il serait, lui, Napoléon, le seul lecteur, le seul abonné, et il lui offrit 1 000 francs par mois sur sa cassette particulière pour effectuer ce travail. Il permit à Fiévé de lui parler librement, ce qui revenait à rétablir en secret, mais pour son usage personnel, la liberté de la presse. Ce qui marque la collaboration personnelle de Bonaparte au Moniteur, ce qui révèle en lui le journaliste et le journaliste de la plus grande classe, c'est la polémique. Polémique qui sera surtout dirigée contre l'Angleterre et qui ira quelquefois jusqu'à l'exaspération. Comme nul n'ignorait, ni à Paris, ni en province, ni à l'étranger, ni surtout dans les cours d'Europe, qui était l'auteur de ces attaques souvent furieuses contre la cour de Saint-James et les ministres britanniques, on imagine sans peine avec quelle curiosité et quel intérêt ces papiers étaient lus et commentés. C'est au lendemain même de Brumaire, le 17 novembre 1799, que Bonaparte ouvre le feu dans son Moniteur contre Pitt. Il le prend à partie, personnellement, dans les termes les plus énergiques. « Il est impossible, écrit-il, s'il n'est pas le plus obstiné des hommes, qu'il ne reconnaisse enfin la profondeur de l'abîme dans lequel il va précipiter sa nation. Il faut qu'il en soit le plus insensé s'il n'emploie pas autant ses moyens pour le combler qu'il semble en avoir pour le creuser. De tous ses moyens, le plus puissant, le seul peut-être qui soit véritablement efficace, c'est la paix. La paix avec la Grande-Bretagne, c'est la possibilité pour Napoléon de réaliser son plan, ou plutôt son rêve européen. Plan européen dont il avait exposé à Fouché et à Narbonne les principaux points. Il me fallait 800 000 hommes, je les ai. Je traîne toute l'Europe avec moi. Et l'Europe n'est plus qu'une vieille putain pourrie dont je ferai tout ce qui me plaira avec 800 000 hommes. Ma destinée n'est pas accomplie. Je veux achever ce qui n'est qu'ébauché. Il nous faut un code européen, une cour de cassation européenne, une même monnaie, les mêmes poids et mesures, les mêmes lois. Il faut que je fasse de tous les peuples de l'Europe le même peuple et de Paris la capitale du monde. Voilà le seul dénouement qui me convienne. Et plus loin, ne croyez pas cependant que je veuille innover en religion. Je serai un Constantin, mais ni docile temporellement, ni schismatique dans la foi. Si je garde Rome pour mon fils, je donnerai Notre-Dame au pape. Mais Paris alors sera élevé si haut dans l'admiration des hommes que sa cathédrale deviendra naturellement celle du monde catholique. Mais revenons aux attaques contre M. Pitt. Fiévé les déconseille formellement à Napoléon. « Monsieur Pitt, dit-il, est aujourd'hui le seul homme véritablement populaire. Il est fort de tout l'ascendant du génie, uni à une grande probité et à des mœurs si simples qu'on peut les regarder comme naturelles. Il n'a qu'un seul défaut, il boit et ne prend pas la peine de s'en cacher. Il est vrai que cela est sans aucune conséquence dans son pays. » Là encore, Fiévé n'est pas entendu. Après avoir tenté d'amadouer les Britanniques, Napoléon leur envoie de terribles volées de bois vert. Cette polémique, car les journaux anglais ne se gênent pas pour riposter, cette polémique l'accapare, elle l'obsède. « Je suis soldat, écrit-il, enfant de la Révolution, sorti du sein du peuple. Je ne souffrirai pas qu'on m'insulte comme un roi. Mon défaut est de ne pouvoir supporter les injures. » Et la première page du Moniteur va être pendant des mois, des années, consacré à cette bataille de plumes. Ce qui met Bonaparte hors de lui, c'est qu'il n'a pas toujours le dessus. Certains arguments, sur la liberté d'opinion notamment, le blessent. Mais ce qui le pique au plus vif, ce qui le fait littéralement souffrir, ce sont les attaques dirigées contre sa personne et surtout contre sa femme et contre sa famille. Pour atteindre le premier des Français, les Anglais ont trouvé une plume qui n'est pas de chez eux, mais de chez nous. Ils utilisent un homme dont le nom est aujourd'hui totalement oublié, mais qui a fait grand bruit à l'époque et dont on ne peut pas parler non plus lorsqu'on parle de Napoléon polémiste ou de Napoléon journaliste. C'est un épisode étrange dans l'histoire de Bonaparte et assez peu connu. Un Nantais, Jean-Gabriel Pelletier, qui avait été l'un des fondateurs avec Rivarol des Actes des Apôtres et avait dû s'enfuir en Angleterre, où il vivait en bohème du maigre produit de quelques travaux historiques et littéraires, lança un journal à l'usage des émigrés français, l'Ambigu. Il était en outre ambassadeur, si l'on peut dire, ambassadeur à Londres de l'empereur d'Haïti, le nègre Christophe, ce qui lui valait quelques ballots de sucre et des sacs d'épices. Son journal déversait des torrents d'injures contre Napoléon. Jugez-en plutôt. Le 15 décembre a commencé le règne de Sa Majesté très incroyable, alias Bonaparte, premier du nom, chef d'une nouvelle dynastie corse, lieutenant de Barras, époux avili de la concubine de ce dernier, mitrailleur de Toulon, mitrailleur de Paris, massacreur d'Alexandrie, boucher du Caire, aventurier, charlatan, hypocrite, ambitieux et freiné, traître à son armée, déserteur d'Égypte, fuyard de Syrie, bourreau de l'espèce humaine, homme sans foi et sans loi, athée, chef de brigand, usurpateur, tyran, l'Attila et le Tamerlan moderne, enfin le plus odieux des hommes. Tel était le ton. Inutile de dire que les articles de Pelletier étaient sévèrement interdits en France, mais la police ne pouvait empêcher qu'il ne se glissât quelques exemplaires, et particulièrement boulevard Saint-Germain, faubourg Saint-Germain. Fouché signale que la princesse de Monaco en envoyait des numéros à tous les émigrés qui ne résidaient pas en Angleterre, et Bonaparte ne l'ignorait pas. Comme l'a dit Thiers, ses pamphlets remplissaient son cœur d'amertume. Rien ne pouvait l'horripiler davantage que de se savoir ridiculisé et vilipendé dans le noble faubourg qu'il s'étudiait à conquérir. Aussi, Pelletier, parfaitement informé, redoublait-il ses attaques avec une savante perfidie. Bonaparte se contint quelque temps, mais il fit faire, en 1802, au lendemain de la paix d'Amiens, des représentations par son ambassadeur, M. Otton, aux ministres anglais. Les attaques se calmèrent quelque peu. Elles reprirent de plus belle à mesure que les propos devenaient plus vifs des deux côtés de la Manche. Napoléon, qui ne pouvait soutenir le ton dans le Moniteur officiel, décida de fonder un journal, encore un, pour combattre l'Ambigu. Ce fut l'Argus. Puisque l'Ambigu paraissait en français à Londres, eh bien, l'Argus serait publié en anglais à Paris. Destiné théoriquement aux républicains britanniques et aux Irlandais émigrés en France, il n'y en avait pas beaucoup, cette feuille fut en réalité distribuée à profusion et gratuitement dans les colonies anglaises jusqu'au fin fond des Indes, comme en témoigne un ordre donné à Talleyrand le 25 novembre 1802. De ces deux journaux, c'était à qui rivaliserait de violence et même de grossièreté. Napoléon, si j'ose dire, jouait le jeu, il en remettait même. Mais un numéro de Pelletier contenant des menaces de mort contre Napoléon, les choses se gâtèrent tout à fait. Le dictateur journaliste chargea son ambassadeur de poursuivre l'auteur provocateur devant les tribunaux anglais. Et Lord Hawkesbury, ministre des Affaires étrangères, fit remarquer à notre agent que Bonaparte se servait contre l'Angleterre dans l'Argus des mêmes armes que celles employées par Pelletier contre la France et le chef de son gouvernement dans l'Ambigu. Mais, excédé, le premier consul insista et le procès eut lieu le 21 février 1803. Spectacle étrange. D'un côté, l'accusé, un simple journaliste, si l'on peut dire, vivant au jour le jour de sa plume et d'expédient. De l'autre, le plaignant, journaliste aussi à 16 heures, mais le héros des campagnes d'Italie, le conquérant de l'Égypte, le premier consul de la République française. L'avocat de Pelletier était Sir James Mackintosh, la gloire du barreau anglais et qui venait, chose singulière, de publier une apologie de la Révolution française. Il fit une plaidoirie des plus habiles, et dans sa péroraison, il s'écria « Je considère ce débat comme le commencement d'une lutte entre le plus grand pouvoir du monde et la seule presse libre qui subsiste en Europe. Et j'ai la confiance que vous vous considérerez vous-même comme les sentinelles avancées de la liberté, ayant aujourd'hui à soutenir le premier combat que le droit de libre discussion livrera contre le plus formidable ennemi qu'il ait jamais rencontré. » Pelletier fut condamné à une très faible amende et accueilli par des ovations. On ouvrit même une souscription nationale à son profit. Ce procès de presse, comme il arrive presque toujours, se retourna au préjudice du plaignant et au triomphe de l'accusé. Dans le Moniteur, Bonaparte enregistra le coup et la querelle repartit de plus belle. On ne finirait pas de citer les articles du journal officiel auxquels le premier consul donna un ton personnel et qui furent destinés à confondre la perfide Albion. Les années passent, Napoléon vole de victoire en conquête, le journaliste du Moniteur parcourt l'Europe en berline ou à cheval. Il n'a presque plus le temps d'écrire, mais n'allez pas croire pour cela qu'il ne s'intéresse plus à la presse, à sa presse. Plus que 4 journaux à Paris. Les directeurs ont été muselés, la concurrence réduite à néant. L'orgueilleux et libéral journal des débats s'appelle maintenant le journal de l'Empire, et Geoffroy, le célèbre feuilletoniste dramatique, a beau s'efforcer d'être indépendant, il ne trompe guère son monde, puisque sur lui courent les rues ce quatrain célèbre dont vous voudrez bien excuser le ton légèrement gaulois. Si l'empereur faisait un paix, Geoffroy dirait qu'il sent la rose et le Sénat aspirerait à l'honneur de prouver la chose. De loin, Napoléon, à travers Fouché d'abord, à travers Savary ensuite, donne ses consignes et cela même à l'instant où l'on pourrait penser qu'il a tout autre chose en tête. Le matin de la bataille de Lutzen, où il allait affronter les Russes et les Prussiens, une heure exactement avant qu'elle ne s'engage, il dicte une lettre à Savary qui montre son opinion sur la presse. Comme tous les articles de journaux qui parlent de l'armée sont faits sans tact, je crois qu'il vaut mieux qu'il n'en parle pas, d'autant plus qu'on sait que ces articles sont faits sous l'influence de la police. De loin, le maître est peut-être encore plus exigeant qu'à Paris. Les amendes pleuvent, les suspensions se multiplient. Non pas que Napoléon frappe pour le plaisir de frapper, il ne le fait souvent qu'à contre-cœur. La négligence que vous portez dans la surveillance des journaux, écrit-il à Fouché en 1808, me force à supprimer le publiciste. Cela fera des malheureux, et vous en serez la cause. Ayant nommé un rédacteur, c'est à vous de le diriger. Viennent les désastres. Napoléon s'emporte contre le ministre de la police qui ne surveille pas assez les journaux. Harcelé, sur la brèche jour et nuit, il continue à lire la presse fiévreusement. Il accuse de le saboter à l'arrière, de donner à l'ennemi des raisons d'espérer. Il s'en prend aux rhéteurs, aux doctrinaires, semblable à cela d'ailleurs à son vieil adversaire Metternich qui disait « On nomme doctrinaires les hommes qui n'ont pas de doctrine, comme on appelle poitrinaires les hommes qui n'ont pas de poitrine ». Les événements se précipitent. Napoléon, jusqu'à la dernière minute, fustige toujours le ministre de la police et à travers lui, les journaux. L'Empire s'écroule. Dans l'acte du 3 avril 1814, portant la déchéance de Napoléon Bonaparte et de sa dynastie, le Sénat, qui n'avait d'ailleurs jamais soufflé mot pour protester contre l'étranglement de la presse, fait un crime au despote de l'avoir asservi. Dans le bouleversant testament qu'il dicta quelques jours avant sa mort, le 17 avril 1821, on lit « Mon fils sera obligé de régner avec la liberté de la presse. C'est une nécessité aujourd'hui. À la paix générale, j'aurais institué une direction de la presse composée des plus hautes capacités du pays et j'aurais fait parvenir jusqu'au dernier hameau mes idées et mes intentions. Ce que j'ai fait, j'ai dû le faire, car il n'y avait que moi, moi tout entier, pour succéder à la Révolution et tenir la place. Mais après moi, je comprends autre chose. Un gouvernement de tempérament et d'équilibre. Comment, pour conclure, mesdames, messieurs, ne pas citer ce mot prononcé dans l'exil et qui retentit après tant de drames que nous avons vécus, d'un accent si particulier à nos oreilles d'hommes encore épris de liberté. Il n'y a que deux puissances dans le monde, le sabre et l'esprit. J'entends par esprit les institutions civiles et religieuses. À la longue, le sabre est toujours battu par l'esprit.
C'était les grandes conférences, Napoléon journaliste par Louis-Gabriel Robinet. Première diffusion sur la chaîne nationale le 10 octobre 1960. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Tu cherches l'événementiel pour la une des journaux. Un scoop sensationnel. Même si c'est du pipeau. Ta fierté il y a longtemps que tu t'es assis dessus. Ton sens moral n'est plus qu'un passé disparu. Tu fermes les yeux sur tout. Rêver d'obtenir le grand prix Pulitzer. Être un grand journaliste, correspondant de guerre. Dénonçant l'injustice, la société sévice. Mais voilà, faut manger. Tu es prêt à tout. Tu fermes les yeux sur tout. Et tu creuses partout. Tu fermes les yeux sur tout. Et tu creuses. Tu traques les people, même si c'est de mauvais goût. Big Brother qui t'emploie, veut savoir tout sur tout. Tu fermes les yeux sur tout. Partout, toi tu fais.